الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va commencer le cours 4 aujourd'hui dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman. Et c'est Usul al-Iman du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. On est arrivé dans le livre au hadith numéro 4, l'explication du hadith numéro 4. Et donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a intitulé donc ce point-là « Ma ja'a fi wasfihi ma ja'a fi wasfihi Allah ta'ala bil-ilm » C'est-à-dire ce qui a été rapporté du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala avec la science. Et il mentionne donc ce hadith ici, qui est rapporté par l'imam Ahmad, selon Abi Dharr, radiyallahu anhu. Il dit, « قال, ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, shatayni yantatihan, faqala atadri fima yantatihan, ya Aba Dharr, qultu la, qal, lakin Allah yadri, wa sayahkumu baynahuma. » Donc, le hadith qui est rapporté selon Abi Dharr, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu deux moutons qui étaient en train de se battre, hein, l'un contre l'autre. Et vous savez, quand ces animaux-là se battent, ils se frappent avec leurs cornes les uns contre les autres. Et donc, ils étaient en train de se frapper comme ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé, « Sais-tu pour quelle raison ils sont en train de se battre de cette façon, ô Abu Dharr ?» Et Abu Dharr a répondu, « Non. » Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Mais Allah, lui, le sait, et il va juger entre deux. » Il va juger entre les deux. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ce hadith-là. Naam. Donc, il dit, « هذا الحديث فيه وصف الله تعالى بالعلم وأنه سبحانه وتعالى يدري ما يدور بين مخلوقاته حتى الذي يكون بين البهائم فقوله شاتان ينتطحان فقال أتدري فيما ينتطحان؟ أي ما السبب الذي جعل بينهما هذا التضارب والتدافع فقال أبو ذر لا فقال صلى الله عليه وسلم ولكن الله يدري أي الله يعلم ما بين هاتين الشاتين إذا كان هذا في الشاتين ففي غيرهما من باب أولى فهو سبحانه يعلم ما يدري أو ما يدور يعلم ما يدور بين العباد من الاختلاف والنزاع والشقاق لا يخفى عليه شيء وأنه تعالى يحكم بينهم يوم القيامة حتى إنه جل وعلا يحكم بين البهائم كما قال تعالى وإذا الوحوش حشرت فالوحوش تحشر وتبعث يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض كما قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فإذا جرى القصاص بين الحيوانات قال الله جل وعلا لها كوني ترابا فتكون ترابا فهي تبعث من أجل القصاص فيما بينها وإذا كان القصاص والحكم بالعدل يجري بين البهائم فبين غيرها من باب أولى وهذا من عدله سبحانه وتعالى والحديث فيه صفتان من صفات الله الأولى علم الله جل وعلا بما يجري بين المخلوقات على اختلاف أصنافها والحكم الثاني الحكم حيث إنه جل وعلا يحكم يوم القيامة بين الناس بين الحيوانات فيقضي بينهم وينصف المظلوم من الظالم. Donc ici le cheikh il explique que ce hadith il explique en fait la description que Allah subhanahu wa ta'ala a la science et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qui se passe entre ses créatures, même ce qui se passe entre les animaux. Et dans le hadith ici on voit que il y avait deux moutons, hein, ou bien deux béliers qui étaient en train de se battre et qui se frappaient l'un l'autre. Et yani, c'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, est-ce que tu connais la cause, hein, ou la raison pour laquelle ces deux animaux se frappent, hein, ou se battent l'un l'autre? Et Abu Dhar a répondu qu'il ne savait pas. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf que Allah, lui, il sait. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui se produit entre ces deux animaux, ces deux moutons, et il dit que, donc si c'est le cas entre deux moutons, il sait qu'est-ce qui se passe entre les deux, alors que dire de ce qui se passe entre deux êtres humains, hein? C'est encore plus évident, donc Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui se passe entre deux hommes, hein? Ou entre deux femmes, ou entre deux êtres humains de façon générale. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui se passe entre ses serviteurs, peu importe les différences de divergence ou les différents conflits qu'il peut y avoir, il n'y a rien de ça qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que il va juger entre eux au jour de la résurrection, et même qu'il va juger aussi entre les animaux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, dans le verset 5 dans sourate At-Takwir, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa idha al-wuhushu hushirat, c'est-à-dire lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées au jour de la résurrection. Donc les bêtes sauvages seront ressuscitées et seront rassemblées, et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que chacune d'entre elles puisse avoir la réparation d'une injustice qui lui a été faite par un autre animal. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne justement dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim, selon Abi Huraira radiallahu anhu, il dit, vous allez rendre les droits à ceux à qui ces droits-là reviennent au jour de la résurrection. Même qu'on va faire venir le mouton dont la corne a été cassée, hein, et on va le faire payer. On va faire payer le mouton qui lui a cassé et qui avait ses deux cornes. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'injustice qui vont laisser être passer sans être corrigé ou sans que la justice soit faite. Même entre les animaux, il y aura une justice qui va être établie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment qu'il a établi la justice entre elles, c'est-à-dire entre les animaux, il va leur dire, soyez de la poussière, hein? C'est-à-dire devenez de la poussière. Et à ce moment-là, ils vont devenir de la poussière. Et ils ont été ressuscités uniquement pour qu'on puisse établir la justice entre ces animaux-là. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce point-là dans sourate An-Naba, à la fin, le dernier verset, lorsqu'il dit وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, c'est-à-dire que le mécréant va dire ce jour-là, yani malheur à moi, j'aurais pu devenir de la terre, en voulant dire que yani c'est la personne qui était mécréante et qui voit ce qui arrive aux animaux à ce moment-là, qui deviennent de la terre, hein, ils n'ont pas de châtiment éternel. Donc eux, ils souhaiteraient à ce moment-là pouvoir eux aussi devenir de la terre, comme les animaux sont devenus de la poussière. Hein. Ils souhaiteraient eux aussi pouvoir devenir de la poussière, justement pour pas être châtiés. Hein. Et bien entendu, ils ne pourront pas devenir de la poussière, puisque yani, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour eux le châtiment de l'enfer. Et donc, le cheikh, il dit, donc, si c'est le cas que les animaux, même les animaux, hein, vont avoir un jugement dans le sens qu'on va établir la justice entre eux et que ça va se produire entre les animaux. Alors que dire de la justice qui va être établie chez les êtres humains, hein? Donc ça c'est encore plus pour montrer en réalité que ça c'est encore plus important et que Allah subhanahu wa ta'ala est juste, hein, et qu'il ne va pas laisser passer les injustices qui se sont produites entre les hommes, même entre les animaux. Hein? Donc c'est comme le cheikh il dit, min babi awla. Et le hadith, il mentionne deux caractéristiques parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement tout ce qui se produit entre ses créatures, peu importe les différentes catégories d'êtres humains, d'animal ou d'êtres humains, il sait exactement ce qui se passe entre les créatures. Et la deuxième catégorie ou la deuxième caractéristique, c'est parmi les attributs qui sont établis dans ce hadith-là, c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va juger au jour de la résurrection entre tous les hommes et entre les animaux, et il va décréter entre eux avec toute justice pour que la personne ou l'animal qui a été opprimé ou maltraité soit justement compensé pour l'injustice qu'elle a subie et pour que l'injustice soit réparée. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre hadith qui est le hadith numéro 5, dont le titre de ce hadith-là est Ithbatu sifatay sam' wal basar lillahi ta'ala, c'est-à-dire l'affirmation des deux attributs de l'ouïe et de la vue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite donc ce hadith qui est rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu, et il est rapporté par Abu Daoud, et il est rapporté également par Ibn Hibban dans son Sahih. Et c'est le hadith suivant dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité les versets. On va le lire en premier. An Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam قرأ هذه الآية إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني إلى قوله لأن الله إن الله كان سميعا بصيرا يضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. Donc ici, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a rapporté ce hadith selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel il y a deux versets qui ont été cités, ou bien plutôt un verset, mais ou bien plutôt plusieurs versets. C'est les versets 58 dans Sourate An-Nisa. Donc, on va lire ensemble ces versets-là, Inch'Allah, et leur signification maintenant. Donc, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, hein, à ceux à qui ces dépôts appartiennent. Al-amanat, c'est le pluriel de amana. Et al-amana, c'est yani le dépôt, la chose qui nous a été confiée, la chose qui nous a été chargé de garder pour quelqu'un. Et ces dépôts-là appartiennent à une personne. Hein? Ils appartiennent à quelqu'un. Et des fois, ça peut être des choses, physiques, des choses qui ont une valeur et qui sont des choses comme palpables. Ça peut être aussi des amanates qui sont des choses abstraites. Hein, comme par exemple des responsabilités, des ordres, des choses à respecter, de la science qu'on a reçue, ou bien un secret qu'on nous a confié. Et ça peut être de beaucoup de différentes formes, l'amana. Ce n'est pas nécessairement de l'argent ou quelque chose qui est physique, hein, concret. Donc, ça, c'est de façon générale. Et donc, Allah, il dit dans le verset, Allah, il dit ce qui signifie, Allah vous ordonne certes, de rendre les dépôts à ceux à qui ces dépôts-là appartiennent. Ceux qui ont un droit sur ces dépôts-là. Et il dit, et quand vous jugez entre les hommes, de juger avec équité, avec justice. Hein? Et quelle belle exhortation qu'Allah vous fait. Et Allah est en vérité celui qui entend tout et qui voit tout. Et c'est ça ici que le verset que le cheikh a cité. Puis il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité ce verset, il a mis ses deux pouces dans ses oreilles et il a mis les deux autres doigts, les index, sur ses yeux, hein, en disant « Sami'an basira », c'est-à-dire « Il est audient et voyant ». Et ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce hadith-là, il dit « Al-amanatu jam'u amana wa hiya kullu تؤمن عليه من الأموال والأسرار والأعمال المسندة إلى المؤتمن وكل المسؤوليات أمانة فليست الأمانة خاصة بالوديعة كما يفهم بعض العوام بل الأمانة عامة في كل ما يؤتمن عليه فعلى الإنسان أن يؤدي ما استحفظ عليه إلى من ائتمنه وأن لا يخون وأن لا يخون الأمانة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فهي أمانة أمانة بين العبد وبين الله وبين الفرد وولي الأمر وبين الفرد وبين الناس قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والآية عامة في كل ما يتعلق بموضوع الأمانات وإن كانت نازلة في الوظائف وبأنه يجب على ولي الأمر أن يسند الوظائف إلى من يقوم بها من الناس ولا يحاب فيها لأن الآية نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى بني شيبة فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أخذ علي رضي الله عنه المفتاح من بني شيبة فأنزل الله هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح من علي ووضعه إلى بني شيبة ولا يزال في يدهم إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Donc on va traduire jusqu'ici, inshallah. Donc le cheikh il explique maintenant que, comme je disais tout à l'heure, que al-amanat c'est le pluriel du mot amana et al-amana c'est traduit comme étant le dépôt, c'est-à-dire la chose qu'on a confiée à quelqu'un, que ce soit des biens, de l'argent, un secret ou un travail à qui on, qu'on a confié à quelqu'un pour qu'il le remplisse pour une autre personne. Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle amanat. Et donc, toutes les responsabilités sont une forme de amana, sont un genre de dépôt qu'on nous a confié. Et donc, yani al-amana, c'est pas quelque chose qui est spécifique aux dépôts qu'on nous a confiés seulement qui sont physiques. Hein? C'est contrairement à ce que pensent beaucoup d'entre le commun des musulmans, ils pensent uniquement à quelque chose qu'on nous confie comme de l'argent. Ils disent « Ah, ça c'est une amana hein? ». Mais l'amana, c'est beaucoup plus large que ça. Et ce n'est pas nécessairement, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui est nécessairement concret. Mais ça peut être quelque chose qui est abstrait aussi. Ou quelque chose qui est pas palpable. D'accord? Comme par exemple, un secret, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut toucher, mais c'est quand même une amana. Hein? Et le cheikh, il explique ensuite que donc toute personne à qui on a confié quelque chose qu'il doit préserver cette chose-là pour la personne qui lui a confié, et elle doit donc le faire. Ça rentre dans l'amanat, et il n'a pas le droit de trahir cette amana. Il n'a pas le droit de trahir ce dépôt ou cette responsabilité ou cette confiance qu'on lui a donnée. Et il cite le verset 27 dans Sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il fait référence à cette question de Al-Amanat dans le verset 27. Il dit ce qui signifie « Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et son messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance, c'est-à-dire l'amana qu'on vous a confié. La confiance qu'on a placée en vous, en vous confiant cette amana. » D'accord? Et il cite également le verset 8 dans Sourate Al-Mu'minun et également, on le retrouve dans Sourate Al-Ma'arij, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, c'est-à-dire ceux qui tiennent compte des dépôts qu'on leur a confiés et des engagements qu'ils ont pris. Et il dit donc, le cheikh, que tout ça, c'est une amana, c'est un dépôt et une confiance, un dépôt qu'on a confié. Et il y a différentes catégories de amanat. Il y a un amana entre le serviteur et son Dieu, et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une amana entre les individus et le dirigeant des musulmans. Ils ont une amana dans la bay'a qu'ils lui ont donnée. Ça, c'est une amana, de respecter cette amana, de respecter ce serment d'allégeance qu'ils lui ont donné. Et il y a également une amana entre les individus et les autres personnes. Les autres personnes qui ont confié quelque chose à cette personne-là. Donc ça, c'est une amana aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 58, donc qu'on a lu tout à l'heure, le verset 58, dans Sourate An-Nisa, que certes, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à ceux à qui ces dépôts-là appartiennent. Donc, de remettre la amana à ceux à qui elles appartiennent. Et le cheikh, il explique que ce verset-là, il est général et qu'il touche à toutes les questions qui sont reliées au sujet des amanat. Peu importe que ce soit relié, par exemple, aux fonctions qu'un dirigeant nous a ordonné d'exécuter, par exemple, comme une fonction dans le gouvernement ou un poste qu'on a reçu, qui est une responsabilité pour nous, eh bien, le dirigeant est responsable aussi de veiller à bien surveiller et bien vérifier à qui il confie ce genre de fonction-là. C'est-à-dire de ne pas donner des fonctions de ce genre à des gens uniquement pour les leur faire plaisir ou pour attendrir ces gens-là ou les amadouer, mais plutôt de rendre les dépôts de ce genre et de choisir les personnes les plus aptes à les plus compétentes et les plus aptes à accomplir cette amana. Et le cheikh, il explique que le contexte de la révélation, c'est-à-dire la cause ou la raison pour laquelle le verset en question avait été révélé, c'est à cause justement des clés de la Kaaba. Parce que les clés de la Kaaba avaient été entre les mains de Bani Shayba. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il a pris, donc Ali radiallahu anhu avait pris les clés de Bani Shayba. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé justement ce verset-là. Allah, certes, vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit, c'est-à-dire à ceux à qui elles reviennent réellement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il a repris la clé de Ali, radiallahu anhu, et il l'a rendue à Bani Shayba. Et il dit, le cheikh, que, il dit ensuite, « Yani wa la yazal fi yadihim » ila yawm al-qiyam, c'est-à-dire que les clés de la Kaaba, elles restent toujours entre leurs mains, c'est-à-dire les mains de Bani Shayba, jusqu'au jour de la résurrection, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de cela. Ensuite, le cheikh, il dit fa sababu nuzul al-ayati khass khassun walakin al-lafdhu 'ammun, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرر ذلك علماء التفسير والأصول. فتشمل هذه الآية جميع الأمانات الحسية والمعنوية، فكل ما كلف به العبد من الأعمال فهو أمانة بينه وبين الله عز وجل. فالوضوء أمانة، والاغتسال من الجنابة أمانة، فجميع الأعمال التي أوجبها الله تعالى على عباده أمانة، وجميع ما حرمه الله تعالى على عباده أمانة كذلك، وكذلك جميع الأعمال والأموال والديون التي في ذمة الذين ائتمنوا عليها إنما هي أمانة. فعلى العبد أن يحفظ الأمانة وأن يؤديها في جميع أمورها، فلا أحد يخلو من الأمانة. فالأولاد أمانة في ذمة ولي أمرهم وهو مسؤول عنهم، فالأمانات كثيرة. ولهذا قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. Donc ici le cheikh il explique que la cause donc de la révélation de ce verset là elle est spécifique, d'accord, c'est-à-dire que c'est révélé à propos de les clés de la Kaaba et de Bani Shayba, sauf que le sens est général. Le sens est général. Et le cheikh il explique ici qu'il y a une règle dans le tafsir. Les ulama de tafsir et les ulama de usul al-fiqh, ils ont établi cette règle, ce principe-là, qui est la règle suivante: al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi-khusus al-sabab. Et cette règle, elle est extrêmement importante, ce qui signifie qu'en réalité, donc, il dit que ce qu'on doit tenir compte, ou ce qu'on doit prendre en considération, c'est la généralité du terme ou des mots qui sont employés dans le verset et non pas la cause spécifique de la révélation du verset. D'accord? Donc, il ne faut pas essayer de limiter ou de restreindre un verset à la cause de sa révélation seulement, mais plutôt, il faut regarder le sens général de ce verset-là et l'appliquer à tout ce qui peut s'y appliquer, hein, et non pas de limiter l'application du verset à la cause pour laquelle elle a été révélée seulement, parce que sinon, ça devient trop restrictif et ça fait en sorte que, justement, on ne puisse pas justement appliquer tous les versets pour toutes les nouvelles circonstances qui se présentent. D'accord? Et ici, on voit, comme le cheikh il l'explique, que le verset en question s'applique à toutes les formes de amanat, qu'elles soient concrètes ou abstraites, et dans tout ce qui a été établi comme obligation pour les serviteurs, eh bien, ça rentre dans qu'est-ce qui est une amana entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le fait de faire le wudu, lorsqu'on n'a pas de wudu pour faire la salat, ça c'est une amana. Le fait de se laver, de faire le ghusl, lorsqu'on est en état de janaba, hein, après avoir eu des rapports intimes, à ce moment-là, de faire le ghusl, c'est une amana. Et toutes les œuvres qu'on fait et qu'Allah nous a rendues obligatoires de faire, ça, dans ce cas-là, c'est une amana aussi. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire, eh bien, le fait de s'en abstenir, c'est une amana pour les serviteurs. De même que toutes les œuvres, hein, toutes les actions et tous les biens et toutes les dettes sous la responsabilité d'une personne ou la charge d'une personne sont des amanates, font partie des amanates. Pardon. Donc, toutes les choses, toutes les actions, les dettes, les biens, et tout ça, ça rentre aussi dans les amanates. Lorsque quelqu'un nous a confié quelque chose, hein, et qu'il nous a demandé de le garder pour lui, alors ça devient une amana. Et le serviteur, il doit essayer de préserver ces différentes amanates et de les rendre, hein, et de les rendre à ceux à qui ces amanates appartiennent, dans toutes les choses, dans toutes les différentes, affaires, hein, peu importe la différente catégorie de choses, de quoi il s'agit. il dit fala ya fala ahadun yakhlu min al amana, hein, fala oulad. Donc il dit, le cheikh, il y a personne qui peut être exempté d'amana, c'est-à-dire il y a personne sur terre qui a pas une amana envers quelqu'un, hein, soit envers Allah, soit envers yani le dirigeant, soit envers les autres personnes. Tout le monde a une amana à respecter ou à garder. Hein? Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit, par exemple, les enfants, ils ont une amana, hein, sous leur charge et leur responsabilité. Et le dirigeant, il a une amana. Hein? Et donc c'est ça. Les enfants, c'est une amana en soi aussi pour nous, lorsqu'on a des enfants. Hein? Et ils sont sous notre responsabilité, donc c'est une amana pour nous de les éduquer, de les élever sur la foi et de bien s'en occuper. Ça, c'est une amana pour nous. Il dit, c'est ça. Et on est responsable d'eux au jour de la résurrection. On aura des comptes à rendre pour la façon dont on s'est occupé de nos enfants. Et il dit, le cheikh, que Les amanates sont nombreuses. Hein? Il y en a beaucoup de amanates. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans le verset qu'on est en train d'expliquer dans Sourate An-Nisa, le verset 58. Il dit donc, certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation que Allah vous fait. Et Allah est en vérité celui qui entend et voit tout. Et le cheikh, il dit ensuite, et il termine donc l'explication de ce hadith-là en disant, wa mahallu shahid fi hadhihi al-ayati qawluhu 'azza wa jalla inna Allaha kana sami'an basira. Fa fiha yani wasfu Allahi bis-sami' aw bis-sam'i wal-basar wa bi annahu sami'un basir. Wa hadhan isman lillahi subhanahu wa ta'ala yatadammanan إثبات السمع والبصر له عز وجل بخلاف فرق الضلال الذين يؤولون الصفات والأسماء الذين يزعمون أن هذا من باب المجاز وعلى قولهم فليس لله سمع حقيقة وليس له سبحانه يعني بصر حقيقة وإنما هذا ونحوه يعني وإنما هذا ونحوه يعني من المجاز ويجاب على هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا وبين أن السمع حقيقي فوضع أصبعه على أذنيه ليبين أن هذا حقيقي ووضع الأصبع الأخرى على عينيه ليبين أنه بصر حقيقي وليس مجازيا وهذا فيه رد على الذين يؤولون أسماء الله وصفاته ويدل على أن الواجب إثباتها كما جاءت وكما دلت عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Donc le cheikh il explique que le point que le cheikh a voulu établir par rapport à ce hadith-là, c'est la partie dans laquelle il mentionne à la fin du verset, certes, Allah est audient et voyant. Hein? Et il y a donc dans la fin de ce verset-là, l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala possède comme attribut la vue et l'ouïe. Hein? L'ouïe et la vue. Et qu'il est voyant, et qu'il est audient et voyant. Et donc ces deux attributs-là, et ils font aussi partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est As-Sami' et il est Al-Basir. Il est celui qui voit tout et qui entend tout. Et donc ces deux noms, yani, ils sont des noms qui sont réels. Et il est obligatoire de les affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux sectes d'égarement qui, eux, essaient de déformer les attributs d'Allah ainsi que ses noms et qui prétendent que ce ne sont pas des noms réels d'Allah, mais ce sont des noms qui sont uniquement allégoriques, hein, et symboliques. Et donc, ils disent que ce ne sont pas des choses réelles. Et donc, ils disent que Allah n'a pas réellement d'ouïe et qu'il n'a pas réellement une vue, ou que tout ça, c'est seulement des choses qui sont allégoriques et symboliques. Et on répond à ces gens-là du fait que Allah, du fait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a complètement réfuté cet argument-là de leur part, hein, et qu'il a clarifié, hein, dans son geste que Allah subhanahu wa ta'ala a réellement un ouïe et qu'il a réellement une vue. Et la preuve de ça, c'est lorsqu'il a placé ses doigts devant ses oreilles, devant ses yeux, pour indiquer que ces attributs d'Allah sont des attributs réels. Hein? Et donc, il a placé ses doigts devant ses oreilles et devant ses yeux pour faire savoir que ces deux attributs-là sont des attributs réels et que ce ne sont pas des attributs allégoriques, contrairement à ce que prétendent les gens de l'égarement. Et donc, c'est une réfutation de ceux qui essaient de déformer la réalité des sens de la parole d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Et ça indique également que il est obligatoire de les affirmer tels qu'ils ont été ramenés dans les textes et tels que Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le Coran et tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a clarifiés dans la Sunna, sans tomber dans le tahrif, c'est-à-dire le fait de vouloir essayer de déformer, hein, ou de falsifier la signification de ces noms et de ces attributs-là, hein, ce que les gens de bid'a appellent parfois le ta'wil, hein, ils utilisent le terme ta'wil pour essayer de faire passer la chose, hein, pour essayer de faire croire que c'est acceptable, parce que le terme ta'wil, c'est un terme qui est connu en arabe et qui est utilisé par les salafs pour désigner l'interprétation, et eux, ils l'utilisent dans un autre sens, c'est-à-dire dans le sens de tahrif, c'est-à-dire de falsifier le sens et de déformer le sens réel. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, on n'a pas le droit de faire le tahrif des attributs ni des noms. On n'a pas le droit non plus de faire le ta'til, c'est-à-dire la négation des noms et de leur signification. Donc, il y a beaucoup de gens de bid'a, c'est ce qu'ils font, ils nient l'attribut, hein, ils nient l'attribut et ils nient les noms aussi. Donc, ça, c'est parmi les groupes de bid'a, il y en a qui sont comme ils font le ta'til, et ta'til, ça veut dire comme si tu vides quelque chose de son sens. Et c'est une forme de négation aussi. Et sans faire de takyif ni de tamthil. Et takyif, c'est quoi? C'est d'essayer de demander ou d'imaginer le commun des attributs et des noms d'Allah. Donc on n'a pas le droit de faire le takyif. On n'a pas le droit d'essayer d'imaginer ou de demander comment sont les attributs d'Allah parce que c'est seulement Allah qui sait. Et on n'a pas le droit non plus de faire de tamthil, c'est-à-dire des comparaisons, de comparer ou de faire des ressemblances ou des comparaisons entre le Créateur et la créature, entre Allah et ses créatures, parce qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc, il est audient et voyant, mais il n'y a rien qui ressemble, hein, à sa vue. Il y a aucune. La vue des créatures n'est pas semblable à la vue d'Allah et l'ouïe des créatures n'est pas semblable à lui d'Allah, parce que Allah, il est parfait et tout-puissant et majestueux, tandis que les créatures, elles sont limitées et donc elles ne peuvent pas justement être comparées à Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans leur réalité, ni dans leurs attributs. Donc, tout ça pour dire, on va s'arrêter ici. Par rapport à ce cours de ce livre aujourd'hui, on continuera la suite, bi'idhnillah, au prochain cours sur la suite des hadiths qui sont mentionnés. Naam. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.